Jacques pour chat, verveine. Le roi Balbuc et la reine Zoémie avaient eu plusieurs enfants, et après les avoir vus heureusement grandir, ils les avaient successivement établis, aussi bien que les parents les plus difficiles auraient pu le désirer. Cependant, Zoémie était triste et mécontente dans son palais, devenue peu à peu solitaire. Les rares visites qu'elle recevait de ses filles et de ses fils mariés ne lui suffisaient pas. Elle prévoyait le jour où son isolement serait complet, et elle trouvait la nature injuste et barbare de rompre si tôt des liens si doux. Il ne restait plus aux deux époux qu'une petite fille âgée de 7 ans. Elle s'appelait Verveine, suivant l'usage du pays, où l'on donnait d'ordinaire à chaque enfant le nom d'une fleur. En sorte que dans la famille du roi Balbuc se trouvaient un prince Muguet, un prince Pavot, un prince Tournesol et d'autres encore, et une princesse Balsamine, une princesse Giroflée, sans compter la petite Verveine, ainsi que plusieurs autres dont nous avons oublié les noms. Si bien que cette famille avait formé comme un parterre complet. Mais, hélas, il ne restait plus que Verveine dans le jardin paternel. Aussi l'on peut se figurer comme elle était chérie, cette fleur charmante, reste unique d'un si riche bouquet. Il est vrai qu'elle était si gracieuse et si belle qu'il suffisait de la voir pour oublier bien des choses. Et les filles aînées se plaignaient quelquefois de voir la reine, leur mère, concentrer toutes ses affections sur la petite Verveine. « Vous êtes injustes, mes filles, » leur disait la mère avec mélancolie. « Ce n'est pas Verveine seule qui m'occupe. Quand je l'observe dans ses jeux, Verveine me rappelle toute ma famille. Je vous aime toutes en elle, telle que vous étiez à son âge. En elle, je vois renaître mes beaux jours, et il m'arrive souvent de lui donner vos noms au lieu du sien, comme pour vous ramener à l'enfance et vous rendre au foyer paternel. Hélas, elle grandira, comme vous. Comme vous, elle me sera enlevée, et votre père et moi, nous resterons seuls dans notre jardin, sans fleurs et désenchantés. « C'est le train de la vie, ma bonne Zoémie, » lui disait quelquefois le roi Balbuc, plus sage ou plus froid que la reine, son épouse. « Il faut que tout change et tout passe pour faire place à des générations nouvelles d'hommes, d'animaux et de fleurs. Adorons cette grande loi et craignons d'offenser les génies en nous révoltant contre elle. » « Ah !» reprit un jour la reine, « que rien ne pouvait consoler. » Les génies savent faire des miracles, et Verveine mériterait une faveur extraordinaire de leur toute-puissance. Verveine, si les génies sont justes et sages, comme vous le dites, ne devrait pas changer, se flétrir et sécher comme les autres créatures. Elle devrait rester toujours telle que nous la voyons en ce moment au milieu de ce parterre, où, sous un nom modeste, elle me paraît la victorieuse rivale des roses et des lys. » Balbuc laissa le souffle du vent emporter les paroles de Zoémie et ne fit aucune protestation contre un vœu si téméraire. C'était sa coutume de laisser le dernier mot à la reine, son épouse. D'ailleurs, pouvait-il supposer que ce discours frivole eut d'autres témoins que les abeilles et les papillons qui butinaient dans le parterre. Malheureusement, une fée invisible se promenait dans ce beau lieu. Elle avait entendu le vœu de Zoémie, et, lassée de ses plaintes éternelles, elle dit tout bas « Tu seras exaucée ». Il se passa un temps assez long avant que l'on s'aperçût du prodige opéré par la fée vengeresse. cependant. Au bout de quelques mois, le roi ne put s'empêcher de dire « C'est vraiment extraordinaire. Verveine ne grandit point et son corps ne fait aucun progrès. » La reine, qui se complaisait dans cette charmante enfant, rose et blonde, dans ses grâces ingénues et son langage naïf, s'applaudissait en secret de voir le temps ménager cette plante chérie et la laisser faire une halte dans cette première période de sa croissance. « Ne vous impatientez pas, dit-elle au roi son époux, elle ne grandira que trop tôt. » Mais lorsqu'à l'âge de 9 ans, Verveine lui parut à elle-même exactement pareille à ce qu'elle était à 7 ans, elle ne fut pas moins surprise que Balbuc, bien qu'elle ne s'affligeât pas comme lui. À 10 ans, point de progrès encore. Alors le roi, tout patient qu'il était, éclata en reproches et dit à Zoémie « C'est votre prière indiscrète qui est la cause de tout ceci. Vous souvient-il du souhait que vous formâtes il y a 3 ans dans le jardin? Le prodige est opéré. Verveine ne sera qu'un petit enfant toute sa vie. » « Tant mieux, répondit l'imprudente reine. En bonne foi, trouveriez-vous malheureuse une vie qui se prolongerait jusqu'au terme ordinaire, sans jamais connaître ni les soucis de l'âge mûr, ni les infirmités de la vieillesse ? Zoémie, Zoémie, que vous montrez peu de prudence. Vous raisonnez vous-même comme un enfant. Espérons encore que Verveine éprouve un simple retard et qu'elle rattrapera bientôt le temps perdu. » L'espérance du sage roi ne se réalisa nullement. Verveine, malgré le cours des astres et le passage des saisons, avait toujours 7 ans pour la stature, le son de sa voix, la démarche et les grâces innocentes. Tous les vrais enfants de cet âge la prenaient pour leur contemporaine et lui proposaient de jouer avec eux. Et Verveine s'y prêtait le plus naturellement du monde. Cependant, on ne la laissait point oisive et sans culture. Elle acquérait chaque jour de l'instruction et de l'expérience. Elle se tenait au niveau des enfants qui étaient vraiment de son âge et n'était nullement déplacée au milieu d'eux. Pour tout dire en 2 mots, son corps avait 7 ans. Son âme avait tous les âges. Et cette halte d'un côté et cette progression de l'autre se soutenant toujours, on prévoit ce qui dut arriver plus tard. Mais, sans anticiper, suivons le cours des événements. Un prodige si extraordinaire occupa d'abord la famille. Les frères et les sœurs de Verveine s'étonnaient de la voir rester stationnaire. Et bientôt, égalée par ses neveux et ses nièces, avec lesquelles elle jouait comme une petite cousine, vive et folâtre comme les plus étourdies, insouciante et légère, bâtissant comme eux des châteaux de cartes et faisant flotter avec ses neveux des barques lilliputiennes dans le grand bassin de marbre qui décorait le château. Dans ces moments-là, ses frères et ses sœurs venaient-ils à passer et voulaient-ils faire leur jouet de la petite Verveine, elle prenait aussitôt sa dignité de 14 ans. Et, par de fermes répliques, par des réflexions sensées, elle faisait respecter son âge. Au besoin, elle prenait part à des conversations sérieuses, où l'air de son visage et le timbre de sa voix semblaient seuls déplacés, mais où les traits d'esprit et de jugement qui lui échappaient en abondance produisaient une sensation d'autant plus vive qu'il faisait le plus singulier contraste avec son air enfantin. Lorsqu'elle était seule avec sa mère et quelquefois assise sur ses genoux, elle croyait devoir prendre un ton raisonnable et discourir en personne de 15 ans. Non, pas comme cela, lui disait Zoémie en mettant dans ses mains une poupée. Avec moi, dans le secret, sois toujours petite fille, une vraie petite fille, et fais revivre pour ta mère l'heureux temps d'autrefois. » Alors Verveine, avec une merveilleuse souplesse d'esprit et de caractère, devenait enfant au gré de Zoémie, jouait de la façon la plus ingénue et prodiguait à sa mère ces douces caresses dont nos fils et nos filles perdent trop tôt le secret et qui d'ailleurs n'ont plus de grâce et de charme quand la saison en est passée pour eux. À vrai dire, Zoémie devenait peu à peu la grand-mère de son enfant. Mais en cette qualité, elle était plus sensible encore à ses amusements, qui charment d'autant plus le soir de la vie, que le soleil descend davantage vers l'horizon. Des pensées plus sérieuses occupaient le roi Balbuc, de plus en plus affligé de voir sa fille demeurer pour l'extérieur dans un état d'enfance. Il s'efforçait d'oublier dans sa conversation l'effet charmant et douloureux à la fois que produisait sur lui sa figure. Par un hasard singulier, Verveine se trouvait celui de tous ses enfants que la nature avait le mieux doué pour l'intelligence, et le bon père se plaisait à discourir avec sa fille sur tous les sujets. Il n'en était point où elle ne fît paraître des lumières, presque aussi merveilleuses que le prodige accompli par la fée sur sa personne. Elle avait à peine 17 ans que Balbuc la consultait souvent sur les affaires d'État. Et quand elle répondait avec son admirable sagesse, il avait peine à croire que ce ne fût pas un être supérieur qui lui parlât sous la figure d'un enfant. Quel dommage, se disait-il avec amertume, que le développement corporel n'ait pas marché d'accord avec celui de l'esprit et du cœur chez ma petite Verveine. Nous aurions eu en elle une princesse accomplie, et tous les rois du monde me l'auraient demandé pour leur fils. Cependant, Balbuc et Zoémie, voyant chez leur enfant tant de maturité et de sagesse, admirant la manière toute sensée dont elle discourait des devoirs de famille, se demandèrent s'ils ne devraient pas, quoiqu'elle fût si petite, songer à la marier. Car elle était en âge d'y penser. Elle avait 18 ans accomplis. Cherchons, dit Balbuc, dans toute la terre habitable, un prince assorti à la taille de Verveine. Il y a des hommes qui restent fort petits et qui ne laissent pas d'avoir une tournure élégante. Et quand notre gendre dépasserait sa femme de toute la tête et même des épaules, c'est là une chose qui se voit tous les jours sans que personne en soit choqué. Cette circonstance ne devrait nullement nous arrêter si nous avions le bonheur de trouver parmi les petits hommes un grand esprit et un grand caractère, car il ne faut pas moins à Verveine. Elle eut bientôt connaissance du projet que ses parents méditaient. Elle avait elle-même, ainsi qu'on l'imagine, réfléchi plus d'une fois à ce sujet important. Sa résolution fut bientôt prise. Elle déclara son intention bien arrêtée de ne se marier jamais. « Un époux assorti à ma taille, dit-elle à son père et à sa mère, serait véritablement un nain. Or, j'ai ouï dire que les nains sont généralement sujets à l'envie et gonflés de vanité. D'ailleurs, il ne serait pas un enfant comme moi. Ce serait un petit barbon qui deviendrait vieux et laid et qui ferait bientôt avec moi le plus bizarre contraste. Il ne serait, et votre fille avec lui, qu'un objet de risée. Si le ciel me donnait une famille, je la verrais grandir, atteindre à la jeunesse, à l'âge mûr, et je paraîtrais la fille de mes enfants. Où serait le respect et l'obéissance filiale? Et quelle jeune personne de 16 ans se croirait obligée à la soumission envers une petite mère telle que moi? Je pourrais bien me voir sous la dépendance de ceux qui devaient être sous la mienne. Ce serait le monde renversé. Mes chers parents, j'ai mûrement réfléchi à toutes ces choses. et je vous prie de renoncer à vos projets sur votre fille. Je resterai jusqu'à la fin auprès de vous. Grâce à moi, vous sentirez moins l'isolement de la vieillesse. C'est le beau côté du prodige qu'il a plu à quelques fées d'opérer sur moi. » En cessant de parler, Verveine essuya de ses beaux yeux d'enfant quelques pleurs de jeune fille. Et ce spectacle perça le cœur de Zoémie. Pour la première fois, elle eut un profond repentir du vœu qu'elle avait formé. Pour la première fois, elle se maudit d'avoir prétendu être plus sage que la nature et d'avoir voulu la réformer. Les raisonnements de Verveine étaient trop sages pour ne pas convaincre ses parents. Elle était d'ailleurs trop chérie pour que l'on songeât seulement à la contraindre. Il fut donc résolu qu'elle ne se marierait pas. Mais elle avait le cœur trop tendre et l'humeur trop bienveillante pour se renfermer dans la froide insensibilité de certains célibataires. À défaut d'enfants, elle avait des neveux et des nièces. Elle fut pour eux une bonne tante et sentit à leur sujet les soucis de la maternité. Ses sœurs et ses belles-sœurs étaient charmées de mettre quelquefois leur fille sous sa garde et sa surveillance, mais à condition qu'elle n'oublierait pas avec eux son âge et sa dignité. Elle n'avait garde de s'y exposer, et dans ces moments-là, elle se souvenait fort bien de ses 25 ans. Si quelqu'une de ses nièces les oubliait parfois, « Églantine, disait-elle, ou Violette, Anémone, ou Pensée, comptez, je vous prie, les perles de mon collier. » Il faut savoir que Balbuc et Zoémie, pour suppléer au défaut de la trace des années sur la personne de Verveine, avaient décidé d'ajouter tous les ans une perle à son collier. Par là, les yeux avaient du moins un signe extérieur auquel chacun pouvait reconnaître l'âge de Verveine. Et peu à peu, le collier devenait plus riche et plus grand. Mais celle qui le portait ne grandissait pas avec lui. Ce qui l'étonnait et l'affligeait le plus elle-même, c'était de voir s'accroître chaque jour la distance qui la séparait de ceux avec qui elle avait commencé la vie. Ses parents touchaient à l'extrême vieillesse. Toutes ses sœurs avaient passé le bel âge. Plusieurs étaient déjà grand-mères. Elle seule paraissait toujours un enfant. Elle avait toujours les mêmes cheveux blonds et flottants, le même teint de lys et de rose, les mains potelées et les pieds mignons. Désolée de cette perpétuelle enfance, elle cherchait quelquefois, mais en vain, à découvrir en elle quelques traces de changement. Un jour, une glace infidèle lui fit croire qu'une ride avait plissé son front. Elle en eut un transport de joie et courut dire à sa mère : « Maman, que je suis heureuse ! Je vieillis enfin !» Mais après un examen attentif, il fut reconnu que la glace avait menti et que le front de Verveine était aussi pur, aussi uni qu'il avait jamais été. Pour donner le change aux regards étrangers et se faire à elle-même une flatteuse illusion, elle essaya de s'habiller à la manière des grandes dames. Elle porta des robes à queue. Elle mit de la poudre, du fard et des mouches. Elle porta de hautes coiffures et de hauts talons. Vaine ressource qu'elle rejeta bientôt quand elle vit que personne ne s'y trompait et qu'elle ne pouvait parvenir à se tromper elle-même. Une autre inquiétude vint un jour la saisir et alla même jusqu'à la terreur. Comme elle voyait son corps, toujours aussi leste, comme elle sentait ses forces toujours les mêmes, elle craignit de ne jamais mourir. « Je sens bien, disait-elle, dans mon esprit, le progrès des années. Chaque période de ma vie fait sa trace, qui subsiste toujours. Mais l'esprit ne s'éteint pas. Et si mon corps demeure toujours dans le même état, il n'y a pas de raison pour que je meure. Je verrai donc passer les générations les unes après les autres, mourir mes parents, mes frères et mes sœurs, leurs enfants et leurs petits-enfants, et moi, devenue étrangère à tout le monde, je serai au milieu des générations nouvelles un éternel monument de la colère des génies. » Dans ses sentiments mélancoliques, elle voyait les années s'accumuler vainement sur sa tête. Sa mère était morte, inconsolable de laisser Verveine telle absolument que le jour où elle l'avait vue jouer dans le jardin parmi les fleurs. Balbu qui avait suivi de bien près Zoémie dans le tombeau. Que de choses leur fille avait apprises encore. Que d'expériences elle avait faites dans le cours de sa carrière, déjà si longue. Elle venait d'ajouter à son collier la 60e perle. Elle avait 60 ans. Plus d'un demi-siècle s'était écoulé, sans avoir imprimé la plus faible trace sur cet aimable visage, derrière lequel vivait à la fois l'esprit de l'enfance, celui de l'âge mûr et celui de la vieillesse. Mais celui-ci se développant toujours davantage et prenant plus de place chez Verveine, elle s'aperçut enfin, et ce fut avec joie, que son humeur avait sensiblement changé. Dans ses belles années, elle s'était bien trouvée avec tous les âges. On l'avait vue souvent dans la même fête, jouer d'abord avec les enfants, puis prendre part aux plaisirs de la jeunesse, enfin se mêler aux récréations plus tranquilles de l'âge mûr. Maintenant, elle se trouvait partout déplacée. Si les enfants lui proposaient de jouer, elle songeait à ses 60 ans et rougissait de prendre part à des récréations puériles. Si les vieillards se formaient en cercle pour se livrer aux longues causeries, leur conversation l'aurait attirée. Mais ses visages ridés, ses cheveux blanchis, lui causaient une invincible jalousie et une insupportable douleur. « Qu'ils sont heureux, disait-elle, leur corps est en harmonie avec leurs pensées. Ils s'en vont. » Et ils voient chaque jour se délier doucement un des nœuds qui les attachait à la vie. Ils ont déjà rompu avec l'enfance, avec la jeunesse, avec l'âge mûr, et n'ont pas à faire tous ces sacrifices à la fois. Alors elle s'éloignait et cherchait la solitude. Elle aimait surtout à visiter les tombes de ses parents. Les morts n'ont point d'âge, et par là, il lui semblait qu'elle se trouvait mieux à sa place avec les morts. « Pauvre mère, disait-elle un jour, j'ai été cruellement punie de votre désir imprudent. Ne ferais-je pas moi-même un vœu plus sage et plus digne d'être exaucé si je demande que ma poussière puisse enfin dormir près de la vôtre ?» En disant ces mots, elle fléchit les genoux à côté de la tombe maternelle. On aurait pu croire qu'une chute si tranquille et si douce était un effet de sa volonté. C'était une défaillance secourable, ou plutôt une délivrance bénie. C'était la mort. Le lendemain, la cendre de l'infortunée reposait avec celle de Balbuc et de Zoémie. On grava sur son tombeau cette épitaphe. Si j'ai la petite Verveine, qui sans pouvoir vieillir a vécu 60 ans, son corps, oublié par le temps, a trouvé la mort plus humaine. Dans ce monde où tout change, où la fleur devient fruit, où la belle saison des frimas est suivie, heureuse avec les siens, qui voit passer sa vie de l'aurore au plein jour et du soir à la nuit.